Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce vendredi 22 janvier, grosse inquiétude dans certains hôpitaux, dont celui de Dieppe, là-bas. Plus de 140 membres du personnel ont été testés positifs. Hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirmait que tous les Français seraient vaccinés avant la fin de l'été. Mais ce n'est pas exactement ce qu'il fallait comprendre. À partir de ce week-end, toutes les personnes qui veulent entrer en France devront présenter un test PCR, même celles qui arrivent de l'Union européenne. La mort de l'un des plus célèbres cascadeurs, Rémy Julien, avait 90 ans. Le Covid l'a emporté cette nuit. En fin de journal, le coup de cœur de nos correspondants en région, l'histoire d'un clown triste qui a retrouvé le sourire. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
En cette mi-journée, seule la Corse reste en vigilance orange.
Oui, parce qu'on attend de fortes pluies et surtout de très fortes rafales de vent. Rafales qui atteindront 160 km/h sur le Cap Corse en soirée et la nuit prochaine, 130 à 140 en Balagne, 100 à 110 du côté de Bastia. Pour les autres, donc, cette tempête qui traverse le pays assez rapidement. On retrouve et on retrouvera de très fortes pluies pratiquement tout au long de l'après-midi sur les régions du flanc est, du massif central et dans le sud-ouest. Et à contrario, à l'arrière, entre le nord, le bassin parisien et le nord-ouest, et ben là, on peut espérer des éclaircies pas trop vilaines. Tout cela avec des températures qui ne bougent pas pour l'instant. 4 degrés à Nancy cet après-midi, 6 à Reims, 7 à Limoges, 8 à Paris, 9 à Cherbourg, 11 degrés à Lyon et 13 à Montpellier.
Merci Valérie. La question du jour, 66 millions de procureurs en France. Emmanuel Macron a-t-il raison? Vous dites oui à 44%, non à 48%. On attend vos appels au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Agnès. Et c'est vrai qu'on avait plutôt le sentiment, au contraire, que les Français étaient résilients, sages, disciplinés depuis le début de la pandémie. Et bien non, 66 millions de procureurs. Selon le président Macron, vous nous donnerez votre avis. On pourra interpréter la phrase d'Olivier Véran. 70 millions de Français pourront être vaccinés d'ici fin août. Et puis on pourra revenir également sur un sujet difficile après hashtag MeToo inceste, hashtag MeToo gay, l'un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux Twitter où des homosexuels racontent les brimades, parfois les violences également, les témoignages qui affluent et qui rapportent leur existence. Vous pourrez nous donner votre avis là aussi au 3210 et puis on rendra hommage au célèbre cascadeur Rémy Julien et peut-être aux cascades avec Belmondo dans les années 70.
Merci beaucoup, à tout à l'heure Pascal.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
L'hôpital de Dieppe, on lisait, sous forte tension, pas simplement à cause des 123 patients atteints par le Covid, non. À ce chiffre, il faut ajouter les 141 agents de l'établissement, eux aussi testés positifs. Bonjour Frédéric Veil.
Oui, bonjour Agnès.
Forcément, une grande partie du personnel est en arrêt maladie, d'où une organisation très compliquée des plannings.
Ah oui, plus que compliqué, hein, puisque ces professionnels de santé intervenaient principalement dans trois services particulièrement fréquentés, à savoir la médecine, la gériatrie et la réadaptation. Il y a donc urgence pour Nicolas Langlois, le maire de Dieppe.
La situation est compliquée, d'abord pour le monde soignant, pour tous les soignants, pour la direction qui sont mobilisés très fortement en ce moment, mais qui le sont depuis un moment. Donc la situation, elle est urgente, mais je veux aussi dire qu'elle est sous contrôle. On a des soignants de qualité engagés, on a une direction d'hôpital qui est à leur côté pour faire face à la situation. Maintenant, on exige des moyens, on a besoin de renforts en personnel à tous les niveaux. Et puis, on a aussi besoin de davantage de vaccins parce que l'une des solutions, à côté des tests, à côté des soignants, c'est de vacciner très largement et là-dessus, le compte n'y est pas.
Oui, comme partout ailleurs ici à Dieppe, il manque des doses de vaccins. Alors, en attendant, tout l'hôpital de Dieppe attend du renfort. Deux infirmières libérales sont arrivées hier, mais ça ne suffira pas. Un appel auprès des professionnels de santé a été lancé par l'Agence régionale de santé.
Frédéric Veil à Dieppe pour RTL. Tous les Français vaccinés à la fin de l'été, c'est ce que l'on pouvait comprendre en écoutant Olivier Véran. Hier soir, le ministre de la Santé était l'invité du JT de TF1.
Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août.
Gros rectificatif, Sophie Orange, ce n'est pas exactement ce qu'il fallait comprendre.
En fait, il faut bien écouter le début de la phrase. Nous sommes en mesure. L'idée, c'est pas de vacciner 70 millions de personnes d'ici la fin de l'été. Déjà parce que nous sommes que 67 millions et que les enfants ne sont pas prévus de toute façon dans cette campagne de vaccination. Mais surtout, le cabinet du ministre précise qu'il faut distinguer les cibles vaccinales obligatoires et les capacité vaccinale. Qui sont les cibles vaccinales obligatoires? Les plus âgés et les plus fragiles. En ce moment, les injections sont réservées aux plus de 75 ans. Au fil des semaines, seront prioritaires les plus de 70 ans, 65 ans, etc. Donc au total, vacciner 15 millions de personnes avant l'été est un objectif absolu pour le ministère de la Santé. Ensuite, donc, les capacités vaccinales. Ce sont les livraisons attendues de vaccins, l'équivalent donc de 70 millions de doses, à condition, bien sûr, que les autorisations de mise sur le marché soient accordées et que la production suive. Ce ne sont donc pas 70 millions de personnes qui seront vaccinées avant la fin août.
Autre éclairage, hein, Sophie, on peut désormais utiliser 6 doses par flacon. Là aussi, ça semble une bonne nouvelle. Eh bien non.
Car Pfizer a adapté ses livraisons en conséquence. On va prendre un exemple. Jusqu'à maintenant, si Pfizer livrait 10 000 flacons, ça faisait 50 000 doses, donc 50 000 personnes vaccinées. Avec 6 doses par flacon, cela permet de vacciner 60 000 personnes, sauf que Pfizer va livrer moins de flacons pour potentiellement les vendre à d'autres pays. En maintenant le même nombre de flacons, plus de personnes auraient pu être vaccinées au même prix. Ce ne sera pas le cas.
Merci beaucoup Sophie Orange pour ces précisions. Parmi les autres recommandations faites par Olivier Véran hier soir, il y a le fameux masque artisanal qui a été fabriqué dès le printemps dernier pour faire face à la pénurie. Désormais, attention, celui-ci n'est plus considéré efficace face aux variants plus contagieux. Aux frontières, changement de règles dès ce week-end. À partir de samedi minuit, pour rentrer en France, Bénédicte Tassard, même les Européens devront se faire tester.
Oui, un test PCR réalisé 3 jours avant d'entrer sur le sol français. C'est valable si vous arrivez par avion, par train ou par bateau de n'importe quel pays européen. Vous ne pourrez pas embarquer si vous n'avez pas ce papier. Cette mesure est déjà en vigueur depuis lundi dernier pour les voyageurs du reste du monde. En revanche, pour les passages aux frontières françaises en voiture, pas de test, pas de contrôle, pas de quarantaine non plus. Sont aussi exonérés de ces tests les 350 000 travailleurs transfrontaliers, les chauffeurs routiers, bref, tous ceux qui exécutent des voyages essentiels et qui possèdent une attestation sur l'honneur. Les contrôles seront renforcés, annoncent les autorités publiques. La France veut donc décourager ceux qui veulent venir visiter de la famille, faire du tourisme sur notre territoire. De toute façon, s'il vous prenez l'envie, sachez que la Belgique, elle, pourrait annoncer aujourd'hui une interdiction pure et simple des voyages non essentiels. Et puis les tests PCR, ils sont de toute façon déjà obligatoires avant d'entrer en Belgique, donc en Allemagne ou encore en Italie.
Bénédicte Tassard du service étranger de RTL. Le contrôle aux frontières, il en sera évidemment question dans RTL Soir. Stéphane Carpentier recevra Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport. On fait une pause et dans un instant, les premières épreuves du bac n'auront pas lieu en mars. Le contrôle continu prend le relais.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Les premières épreuves du bac, les épreuves de spécialité n'auront pas lieu comme prévu en mars. Ça tombe bien, c'est ce que demandaient depuis plusieurs semaines professeurs, élèves et parents d'élèves, Marie Guerrier.
Oui, le ministre de l'Éducation nationale dit avoir entendu les inquiétudes sur les difficultés de préparation des épreuves dans le contexte de l'épidémie et de l'alternance cours en présentiel et à distance dans 70% des lycées. Jean-Michel Blanquer était l'invité d'Alba Ventura sur RTL ce matin. Le report était demandé par la plupart des syndicats. Eh bien, le ministre a carrément choisi d'annuler les épreuves de mars.
Oui, et surtout de les remplacer par un autre mode d'évaluation, en l'occurrence le contrôle continu du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre, de façon à ce qu'on travaille jusqu'au bout. Ce qui comptera pour la note, c'est la moyenne de l'année. J'ai pris cette décision. Évidemment, comme d'autres décisions, on les prend pas de gaieté de cœur, puisque c'est pour faire face à des contraintes, mais il me semblait que c'était plus juste, de façon à ce que, encore une fois, les buts que nous nous fixons soient atteints, c'est-à-dire la sérénité des élèves et leur réussite.
L'épreuve de philo et le grand oral sont maintenus, eux, en juin. Alors pour rendre les notes du contrôle continu les plus objectives possibles, un guide de l'évaluation sera fourni aux établissements début février, avec de grands principes, des bonnes pratiques, dit la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Le nombre de notes par trimestre et dans l'année, le nombre de devoirs sur table, des sujets du bac, le type de compétences à évaluer, le niveau commun d'exigence. Et il y aura un cadre national pour les commissions d'harmonisation qui passeront en revue les moyennes trimestrielles de chaque lycée.
Merci Marie. Le contrôle continu, pas vraiment la panacée pour le SNES SFU. Sophie Vénétité, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant, prof de lycée également. Même le contrôle continu encadré, comme le souhaite Jean-Michel Blanquer, pour vous, ce n'est pas la bonne solution ?
Ce n'est pas la bonne solution. Alors certes, on est tous soulagés que les épreuves n'aient pas lieu au mois de mars parce que le calendrier était vraiment infernal et intenable. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur le contrôle continu. Ce matin, sur votre antenne, Jean-Michel Blanquer parlait de l'exigence d'égalité. Or, on sait que le contrôle continu conduit à ces ruptures d'égalité. Très concrètement, il suffit de se souvenir à quoi a ressemblé le bac 2020 l'année dernière où on a vraiment constaté des inégalités très importantes entre les élèves selon les établissements.
Vous faites partie en fait de ceux qui voulaient de vraies épreuves plus tard, mais de vraies épreuves.
Oui, ce qui nous semblait important, et ce qui nous semble toujours important, c'est que les élèves puissent passer des épreuves nationales, c'est-à-dire le même jour, tous les élèves passent les épreuves, comme c'était prévu au mois de mars, mais au mois de juin. Ça permettait à la fois de desserrer l'étau du calendrier, qui était vraiment intenable, mais aussi de donner la possibilité d'avoir ces épreuves organisées nationalement et d'éviter les problèmes du contrôle continu.
Mais puisque vous parlez de calendrier, reporter ces épreuves au mois de juin, c'est d'abord prendre le risque qu'elles ne puissent pas se tenir en raison de la situation sanitaire, mais aussi faire du mois de juin un mois où l'on ferme les lycées pour les autres élèves, non ?
Alors, c'est pas exactement comme ça que ça pourrait se passer. Jean-Michel Blanquer, ce matin, sur votre antenne, a évoqué la reconquête du mois de juin. Mais là, très concrètement, il s'agissait de mettre deux épreuves au mois de juin. En plus de l'épreuve de philosophie, ça fait trois épreuves. Je rappelle que les années précédentes, dans le cadre du précédent baccalauréat, on avait une semaine d'épreuves avec cinq à six épreuves. Donc là, on était quand même loin de ça, loin des caricatures de ce mois de juin. C'était tout à fait possible. Et si jamais la situation sanitaire ne s'améliorait pas, on aurait pu poser une date à laquelle on revoyait la situation, par exemple en avril ou en mai. Mais il était tout à fait possible aujourd'hui de reporter les épreuves. Ça aurait vraiment donné ce cadre national qui garantit l'égalité entre tous les élèves.
Sophie Vénétité, le contrôle continu est-il synonyme, selon vous, d'un bac dévalorisé ?
Alors, il est plutôt synonyme d'un bac local, c'est-à-dire que chaque établissement va noter les élèves comme il le souhaite, et c'est cette note-là qui devient la note du baccalauréat. Et surtout, il y a ces petits arrangements avec les notes qu'on a constaté l'année dernière, hein, dans le cadre du contrôle continu. On a vu que certains établissements avaient modifié les notes, et donc c'est ces notes modifiées qui avaient conduit à la note du baccalauréat. Après, plutôt que la valeur du diplôme, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on en a arrive là. On en arrive là parce que le contrôle continu n'est pas suffisamment cadré et que ce n'est pas la meilleure solution pour passer le bac.
Le ministre de l'Éducation nationale compte envoyer des livrets, des fascicules justement pour essayer d'harmoniser ce contrôle continu. Ce n'est pas suffisant ?
Alors, pour l'instant, ce sont juste des paroles. On n'a pas vu encore ce que ça allait donner en acte. L'an dernier, on nous avait fait les mêmes promesses. On nous avait dit, vous allez voir, on va pouvoir objectiver le contrôle continu. On va pouvoir faire des harmonisations. Vous allez avoir des réunions de trois jours pour harmoniser les résultats du baccalauréat. Résultat, on est arrivé dans ces réunions-là. Toutes les notes avaient déjà été modifiées dans les établissements. Au lieu de trois jours de réunion, on a eu en tout et pour tout 30 à 45 minutes de réunion où on a constaté que les notes étaient déjà mises et qu'on n'avait plus rien à faire. Donc, on est assez sceptique sur ces procédures d'harmonisation.
Dernière question très rapide, le grand oral qui doit être la nouvelle épreuve emblématique du nouveau bac, vous n'en voulez pas ? Toujours pas ?
Le grand oral est là aussi une épreuve très inégalitaire parce que l'oral est quelque chose qui est pas maîtrisé de la même manière par les élèves, mais surtout dans cette année de pandémie, il est très compliqué à préparer, les lycées fonctionnent pas de la même manière et là encore, ça risque d'être préjudiciable pour certains élèves, donc vraiment il faut prendre la mesure de cette année si particulière d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue pédagogique et annuler le grand oral.
Merci beaucoup Sophie Vénétité d'avoir été l'invitée de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale adjointe du syndicat SNES FSU. Dans les établissements scolaires, Jean-Michel Blanquer l'expliquait ce matin, là aussi sur RTL, les contaminations restent limitées. Le taux de positivité est de 0,3% selon le ministre de l'Éducation nationale. Ce sont les résultats des tests effectués sur les élèves et sur les enseignants. Cette nuit à Lille, une soixantaine d'étudiants ont été verbalisés lors d'une soirée clandestine dans un appartement. L'organisatrice de 18 ans, une étudiante en médecine, a été placée en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle dit avoir été débordée par le nombre de participants. Une pause est dans un instant, direction le Pas-de-Calais. Une femme s'est défenestrée hier soir pour échapper à son mari violent.
RTL.
RTL Midi
avec Agnès Bonfillon.
Elle a préféré se jeter par la fenêtre pour échapper aux coups de son mari. Une femme est toujours hospitalisée dans un état grave à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Hier soir, en fait, le RAID a même dû intervenir, Guillaume Chiez.
Oui, c'est un voisin qui a prévenu les policiers un peu avant 20h hier. Une femme vient de se défenestrer du deuxième étage. Elle est allongée au sol et souffre de multiples fractures. Le bassin, les lombaires, les vertèbres sont touchées. Avant d'être hospitalisée, cette femme de 34 ans a eu le temps d'expliquer aux enquêteurs qu'elle voulait échapper aux coups et aux menaces de son mari violent. Elle a elle-même enjambé la fenêtre pour sauter dans le vide. L'homme est possiblement armé, dit-elle. Et pour éviter tout risque, les policiers font alors appel au RAID, l'unité d'intervention spécialisée. Les policiers d'élite font couper le gaz dans l'immeuble pour éviter tout accident et passent à l'action. Vers 22h, le mari violent, âgé de 41 ans, est rapidement interpellé. Il ne portait pas d'armes, mais était dans un état d'ébriété très avancé. Il ne pourra pas être entendu avant cet après-midi.
Et Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Au moins 121 antennes relais dégradées depuis le premier confinement en France et des millions de personnes privées de télévision, de radio. C'est une information RTL que nous vous donnions dès ce matin. Ce phénomène qui ne cesse de s'amplifier a donné lieu à de nombreuses interpellations, essentiellement dans les réseaux de l'ultra-gauche et des anti-5G. Demain en Russie, de nombreux rassemblements sont organisés en soutien à Alexei Navalny. Dimanche dernier, vous le savez, le principal opposant au Kremlin a été arrêté à sa descente d'avion, incarcéré. La police de Moscou prévient que toute manifestation illégale sera réprimée. Certains ministres conseillent même des alternatives comme regarder son film préféré ou faire du patin à glace. Au nom de sa passion, il a risqué sa vie de très nombreuses fois et pourtant le cascadeur Rémi Julien est mort du Covid cette nuit. Âgé de 90 ans, il était hospitalisé depuis plusieurs semaines. À 50 ans, il a été la doublure de très très nombreuses stars, apparaissant notamment au générique de 6 James Bond, s'il vous plaît. Mais ce qu'il y avait de particulier avec Rémi Julien, c'est qu'il est devenu un peu une célébrité malgré lui, comme l'explique Vincent Perrault qui nous parle cinéma tous les dimanches sur RTL.
C'était une star mais à son corps défendant, c'est-à-dire que j'ai rarement vu dans le cinéma quelqu'un d'aussi discret que lui, mais il l'est devenu parce que son travail se voyait tellement et parce qu'il avait un tel charisme qu'il est devenu une star et que son nom a résonné en France et dans le monde entier. Mais d'abord, le statut même de son métier, c'est la discrétion puisqu'il s'agit de doubler quelqu'un, un comédien, et que ça ne se voit pas. Et il est dans l'ombre des stars avant toute chose, mais il a réussi à leur faire faire, à Belmondo, Mondo, Delon, Trintignant, Catherine Deneuve, etc. Des choses tellement exceptionnelles, tellement spectaculaires, qu'au bout d'un moment, on a fini par se dire mais qui est ce gars qui arrive à faire des choses aussi percutantes à l'écran ? Et il est, d'un certain côté, c'est vrai, devenu une star, mais pas autant que celle avec lesquelles il travaillait et pour qui il travaillait avec amour.
Vincent Perrault avec Guillemette Franquet. Vincent que l'on retrouve évidemment tous les dimanches de 14h à 15h30 avec RTL Pop Ciné. Comme chaque jour dans RTL Midi, le coup de cœur de nos correspondants en région. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du clown Sirui, un clown triste en décembre dernier. Juste avant Noël, le nordiste s'est fait voler tout son matériel de scène. Mais c'est là que la belle histoire commence, Franck Conson, car très vite, un formidable élan de solidarité a eu lieu autour de l'artiste.
Oui, une mobilisation qui est née sur les réseaux sociaux pour ce clown Sirui, Ludovic Méhens, dans la vie, qui a failli arrêter le métier quand il s'est fait braquer sa voiture à Armentières avec tout son matériel de scène, sa sono, son costume, ses décors. Avec son nez rouge et ses chansons écolo, il parcourt les écoles et les associations dans toute la France depuis 23 ans. Et de partout, des anonymes ou des fans se sont donc bougés pour l'artiste.
Il s'est passé un événement incroyable, c'est que plein de gens m'ont rappelé en disant « T'inquiète, nous on a du matériel de sono, nous on a du matériel de décor, on peut t'aider. » Une jeune fille sur internet qui m'a dit « Pas de problème, on va te refaire ton costume. » Il y avait des gens qui me connaissaient, comme Jérémy, un petit jeune qui venait me voir au zoo quand il était enfant, qui est devenu magicien et qui m'a dit « Écoute, je mets une cagnotte en ligne et ça te prie quoi. » On dit toujours que le monde est gris, mais finalement il n'est pas tant que ça quoi.
Un beau geste qui rassure le clown engagé pour la planète et qui espère bientôt remonter sur scène.
Tout le monde ! Je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète.
Et pour remercier ses donateurs, Siroui promet donc via son site Facebook de faire gagner un spectacle gratuit partout en France.
Merci beaucoup Franck Ronson, on a bien retenu hein, le message de Siroui, mettre ses baskets pour préserver la planète. Je ne le chante pas mais... je le note.
On y est, c'est bien.
Merci Franck. On retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Vous avez écouté attentivement le journal. Pascal, qu'est-ce qui vous a frappé ?
Le gouvernement sera en mesure de vacciner 70 millions de personnes d'ici fin août. On est dans l'exégèse de cette phrase d'Olivier Véran qui a pris le risque quand même d'être contredit ces prochaines semaines, ces prochains mois, lorsqu'on lui ressortira précisément cette séquence où il prend l'engagement de vacciner tant de personnes à la fin de telle période. Vous pourrez réagir, bien sûr. On pourra réagir aussi sur... vous avez le sentiment d'être procureur, Agnès ?
Bah, pas tellement, mais...
mais nous sommes 66 millions de procureurs. Et alors que, je le disais, moi j'ai le sentiment au contraire que les Français sont résilients, sages, assez disciplinés, à rebours de l'image des frondeurs ou des râleurs qu'on nous dessine souvent. Donc là aussi, vous pourrez réagir sur ces propos du président de la République. Il y a également un sujet difficile après l'hashtag MeToo inceste. C'est l'hashtag MeToo gay qui est l'un des sujets les plus commentés sur le réseau social Twitter, avec beaucoup de témoignages de gays qui racontent les difficultés de vivre, les brimades, les violences, les insultes. Donc là aussi, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Puis Rémi Julienne, ça ne nous rajeunira pas, mais on se souvient par exemple de Jean-Paul Belmondo sur un métro dans Peur sur la ville, un film de Henri Verneuil. C'est lui qui avait réglé cette cascade. Donc, est-ce que les cascades, ça vous fait rêver ? C'est le cascadeur le plus célèbre de France, Rémi
Julien.
James
Bond aussi, hein, Rémi
James
Julien.
Bond, ah, exactement. Donc, c'est un sujet. Il est mort à 90 ans des suites du Covid.
Merci beaucoup, Pascal. À tout de suite. La météo, Valérie Quintin. Peut-on espérer un petit retour du soleil cet après-midi, s'il vous plaît ?
Pas de problème. Suffit de demander. En fait, l'avantage des tempêtes, au moins, c'est qu'elles passent vite. Alors, certes, elles apportent des trombes d'eau, de grosses rafales de vent, mais derrière, très rapidement, les éclaircies reviennent, et c'est le cas sur un très large quart nord-ouest à l'heure qu'il est. Les pluies, elles, du coup, sont parties vers l'est, vers le massif central, ça pleut encore un petit peu pas mal dans le sud-ouest, et surtout en Corse, où l'on attend de très fortes rafales de vent ce soir et la nuit prochaine, rafales qui vont atteindre les 160 km/h sur le Cap Corse, 140 en Balagne, et puis toutes ces pluies, toute cette neige aussi en montagne, il va falloir s'y attendre cet après-midi et ce soir, des altitudes de 1000-1200 mètres, parce que les températures reste relativement clémente. 7 degrés à Orléans cet après-midi, 8 à Caen, à Abbeville, à Paris, 10 à Strasbourg et La Rochelle, 13 à Nîmes et 16 degrés à Ajaccio.
Oui, enfin Valérie, vous nous dites que les tempêtes passent vite, mais l'une chasse l'autre. Ce week-end, nouvelle tempête.
Ouais, dès demain, ça recommence dès demain matin avec à nouveau de fortes pluies et de fortes rafales de vent. Demain, pratiquement toute la journée, près de l'Atlantique, de grosses rafales de vent également sur la Corse. Une tempête qui avancera tout aussi vite que celle d'aujourd'hui, ce qui veut dire que l'après-midi, on aura des éclaircies à l'ouest et à contrario, de grosses pluies et des chutes de neige à l'est, mais demain, contrairement à aujourd'hui, les chutes de neige interviendront beaucoup plus bas, puisqu'elles seront aux alentours de 600 à 700 mètres, vu que les températures baisseront un petit peu, 0 à 9 degrés le matin, 3 à 14 l'après-midi. Quant à dimanche, encore une autre qui va traverser le pays à nouveau, mais celle-ci sera précédée d'un petit peu de neige, probablement en plaine, entre la Normandie, l'Île-de-France, le centre et le Limousin. Ce sera à surveiller, parce que les températures vont très nettement baisser entre samedi et dimanche.
Merci beaucoup Valérie. Dans 1 minute 30, très précisément, précisément, il sera 13h sur RTL.
RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Non pas les auditeurs ont la parole, les procureurs ont la parole. Car nous sommes 66 millions de procureurs, on était des Gaulois réfractaires déjà. Bonjour Rida.
Bonjour Pascal.
Vous êtes procureur ?
J'aurais pas cette prétention, mais les propos du président me flattent.
Ah bon ? Ah bah vous allez nous dire pourquoi. Agnès Bourfillon, le rappel des titres.
La semaine dernière, il n'était que cas contact, mais on l'apprend à l'instant. Zinedine Zidane est bien positif au Covid-19. Zinedine Zidane, évidemment, entraîneur du Real Madrid. À partir de ce week-end, nouvelle mesure aux frontières. La France exige un test PCR pour tout nouvel entrant.
ressortissants de l'Union européenne ou pas. Contrôle continu pour les les candidats au bac d'ailleurs. Les épreuves spécialisées sont purement et simplement annulées. Elles devaient avoir lieu au mois de mars, on le rappelle. Une soixantaine d'étudiants verbalisés cette nuit à Lille lors d'une soirée clandestine. La jeune fille de 18 ans qui avait organisé cette fête chez elle a été interpellée et placée en garde à vue. Les auditeurs.